Bonsoir à tous et à toutes. Yacouba Ouédraogo avec vous ce soir. Ravi de vous retrouver pour cette émission Sporama sur VOA Afrique, comme chaque semaine. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, sur la page Facebook de VOA Afrique. Nos consultants sont là pour vous éclairer. J'ai salué Jules Valentin Ngoué depuis Libreville au Gabon. Bonsoir Jules.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous.
Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa, est avec nous. Bonsoir Thierry.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous.
Nous retrouvons aussi Amdine Si à Dakar. Bonsoir Amdine.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Avec nous aussi Élisée Oumpatine depuis Boïcon au Bénin. Bonsoir Élisée.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous.
On va retrouver Amine Birouk du côté de Casablanca d'ici là. Mais en attendant, merci à tous de votre présence et merci à vous aussi, chers auditeurs, d'être à l'écoute. Nous commençons cette émission par les éliminatoires de la CAN 2019, Cameroun 2019 donc, qui se tiendra, cette CAN-là, du 15 juin au 13 juillet. Les troisième et quatrième journées commencent cette semaine et s'annoncent déjà décisives. On aura deux rencontres précisément dès ce mercredi. Éthiopie, Kenya et Zambie, Guinée-Bissau. Vous l'avez suivi en fin de semaine dernière. La sélection kenyane est en grande souffrance alors que le Kenya a décroché ses trois premiers points dans ses éliminatoires de la CAN 2019 là et s'apprête pour la double confrontation face à l'Éthiopie. La sélection est confrontée à des difficultés financières. Conséquence, la Fédération kenyane de football a demandé aux joueurs de rallier directement la capitale éthiopienne pour la rencontre et a indiqué que les primes de match ne seront pas disponibles. La presse locale parle aussi de la situation du sélectionneur français Sébastien Migné qui n'a pas été payé depuis 4 mois. Jules, alors on se demande comment peut-on vraiment demander des résultats à une équipe en faisant preuve d'autant d'amateurisme?
Vraiment, là, on fait un bond de 40 ans en arrière, à l'époque où les joueurs amenaient le paquetage préparé par leur maman dans les sacs et mangeaient dans l'avion. Et donc, franchement, c'est incompréhensible. Et au moment où on demande des résultats aux sélections africaines, si on fait un grand pas en obtenant 5 places en Coupe du Monde, de se mettre au niveau mondial et on retrouve autant d'amateurisme, c'est vraiment désolant. Je pense que le Kenya, qui est un grand pays d'athlétisme, un grand pays de sport, ne peut pas se permettre dans le sport roi de faire des couacs de cette ampleur.
Merci bien, Jules. Alors, l'essentiel des affiches auront toutefois lieu vendredi et samedi. Dans le groupe A, le Sénégal reçoit le Soudan à Dakar le samedi 13. Aliou Cissé a été contraint de revoir ses plans alors qu'il avait convoqué Lamine Gassama pour la double confrontation contre le Soudan. Le sélectionneur du Sénégal va devoir se passer du latéral droit de Göztepe, qui s'est blessé vendredi dernier dans le championnat turc. Pape Djibril Diaw a été appelé au secours. Amdine, il faudra relever la tête pour le Sénégal, bien sûr, après le match nul à Madagascar, même s'il n'y a pas péril dans la demeure.
Tout à fait, Yacouba, vous avez raison, puisque le Sénégal est leader de sa poule, c'est vrai. Que les Sénégalais ont une victoire, un match nul, mais pour le dernier match à Antananarivo contre le Madagascar, ce nul est considéré comme une défaite par les nombreux supporters des Lions de la Teranga parce que tout simplement le contenu n'était pas tellement bien. Mais pour revenir à l'équipe nationale du Sénégal et les joueurs convoqués, vous l'avez dit tantôt, Aliou Cissé avait convoqué quand même 23 joueurs et 7 réservistes. Et comme vous l'avez dit tantôt, Lamine Gassama est forfait, ça c'est officiel. C'est vrai qu'il va effectuer le déplacement sur Dakar pour se faire constater, pour faire constater sa blessure, comme le stipule le règlement, mais il va retourner à son club pour le remplacer. Aliou Cissé n'a pas pris Pape Djibi Diaw, parce que Pape Djibi Diaw, c'est pas le remplaçant de Lamine Gassama, mais c'est plutôt Racine Colly, le sociétaire de Nice, qui l'a remplacé, parce que Racine Colly est un latéral comme Lamine Gassama. Mais ce qui est étrange dans la convocation de Racine Colly, il ne faisait pas partie de la liste des 23, mais il ne faisait pas partie également des réservistes. Mais heureusement, Aliou Cissé, qui a eu des relations avec le staff de Nice, notamment le nouvel entraîneur des Aiglons, qui est d'origine du Sénégal, Patrick Vieira, pour ne pas le nommer, a discuté avec les Niçois qui ont su libérer Racine, qui est titulaire à Nice. Donc Racine a été libéré et il va rejoindre la tanière. Pape Djibi Diaw est là pour pallier à toute éventualité parce que c'est deux matchs qui vont se jouer en l'espace de 4-5 jours puisqu'on joue le 13 à Dakar contre le Soudan et le 16 à Khartoum contre cette même équipe du Soudan. Yakuba, que les Lions ont effectué leur première séance d'entraînement aujourd'hui au stade Léopold Sédar-Senghor et sur les 23 joueurs convoqués, 9 ont répondu à l'appel du staff technique. Il s'agit de Sidi Sarr, Amad Guédiou, Cheikh Doué, le capitaine Cheikh Oukiaté, Mbaye Diagne, le porteur de Rennes, Edouard Mendy, il y a également Ibrahima Mbaye et Racine Koly. Ce dernier vient en renfort. Après le forfait de Lamine Diatama, nous allons suivre tout cela parce que c'est un match très important. Si le Sénégal réussit à gagner cette double confrontation, le Sénégal va se qualifier pour la Coupe d'Afrique de 2019 qui aura lieu au Cameroun. Yakuba.
Merci bien. Amdine, dans l'autre rencontre du groupe A, la Guinée équatoriale recevra Madagascar, deuxième du groupe avec 4 points derrière le Sénégal et devant les Équato-Guinéens, 3 points. Eh bien, Élysée, ça pourrait être un duel hein, très intéressant. Élysée, vous m'entendez?
Oui, avec Yakuba.
Alors, donc, je disais que dans le groupe A, la Guinée équatoriale recevra Madagascar, qui est deuxième du groupe, avec 4 points derrière le Sénégal, et devant les Équato-Guinéens, qui ont 3 points. Eh bien, en fait, quatre points, bien sûr, derrière le Sénégal. Je disais que ça pourrait être un duel intéressant entre Équato-Guinéens et Malgaches.
Bien évidemment, hein, Yakuba, puisque on a vu la bonne prestation des Équato-Guinéens lors de la précédente journée où ils ont empoché les 3 points. Ça devrait être un match où cette sélection doit mettre tout en œuvre hein, pour pouvoir empocher les 3 points. Madagascar, c'est vrai, a été accroché à domicile par le Sénégal. Sénégal qu'on voyait déjà hein, terminer en tête, j'allais dire, dans ce groupe. Maintenant, c'est la place, pour la deuxième place qui s'annonce donc toi indécise entre ces clubs-là. Donc ce sera un match où il faudra quand même tout faire pour ne serait-ce gagner 4 points en attendant la cinquième journée, puisque cette double confrontation permettra non seulement aux Équato-Guinéens, mais aussi aux Malgaches hein, de prendre une sérieuse option en attendant les deux prochaines, les deux dernières journées, histoire de bien comporter et faire de bonnes places en attendant d'être vraiment fixé sur son sort.
Merci bien, Élysée. Dans le groupe B, celui du pays hôte, le Maroc fera face aux Comores à Casablanca. Chez vous donc, Amine, bonsoir.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous.
Alors, les Lions de l'Atlas voudront sans doute enchaîner après la victoire 3-0 contre le Malawi lors de cette deuxième journée. Mais il faudra se méfier quand même des Comoriens qui ont tenu le Cameroun en échec 1-1, on se rappelle, lors de la deuxième journée.
Le mot d'ordre est de prendre 6 points si possible, dans la mesure où le Maroc reçoit à Casablanca, puis se déplace 3 jours plus tard à Moroni. Un laps de temps assez court, face à un adversaire qui est un peu le cendrillon de ce groupe B. Le Maroc, on se rappelle, avait réussi à redresser la tête après une défaite initiale face au Cameroun, avec un succès 3-0 devant Madagascar, devant l'équipe du Malawi, pardon. Et l'essentiel, c'est que, a priori, à l'exception de Ziyech qui serait blessé, et qui va devoir venir faire constater sa blessure, et voir dans quelle mesure il pourrait être récupérable, soit pour la première, soit pour la seconde manche. Hervé Renard dispose quasiment de tout l'effectif ou de toutes ses forces vives. On mettra de côté l'absence de Mehdi Benatia qui a mis en suspens un peu sa participation internationale depuis la Coupe du Monde. Mais toute l'équipe du Maroc, en tout cas l'ossature qui a disputé la Coupe du Monde 2018, sera au rendez-vous. Il n'aura que l'embarras du choix dans la mesure où il récupère également un des meilleurs buteurs de la Ligue des Champions, Walid Azarou, qui n'entrait pas dans ses plans et qui pourrait être titularisé soit pour le premier match, soit pour le second. En tout cas, on se retrouve face à une inconnue parce que les joueurs de l'équipe des Comores sont de bons pensionnaires de Ligue 2, souvent de National. Quelques-uns évoluent en première division française, mais c'est un peu l'inconnu dans cette compétition. Un adversaire qui a tenu en échec le Cameroun lors de la deuxième journée à Moroni et qui a aussi fait une belle résistance face au Malawi lors de la première journée avec seulement une défaite d'1-0. Pour le Maroc, l'essentiel c'est de gagner. gagner avec la manière, en marquant un maximum de buts si possible, avant de procéder à un long voyage dans la nuit même du match en direction de Moroni. Les Comoriens se plaignent quelque peu des délais qui sont assez courts entre le premier et le second match, c'est-à-dire 72 heures. Ils auraient souhaité que la Fédération royale marocaine de football puisse avancer le match aller de quelques jours, disputé soit jeudi, soit vendredi, mais a priori les Marocains ont décidé de maintenir le cap et de faire disputer cette rencontre samedi pour avoir un maximum de public, puisque une nouvelle fois l'équipe du Maroc retrouve son public à Casablanca, un public chaud bouillant, mais un public qui est capable également de se retourner contre son équipe si elle ne carbure pas, notamment lors du premier quart d'heure.
Merci bien Amine. Thierry, le Cameroun jouera le Malawi vendredi à Yaoundé. C'est un premier test à domicile pour le duo Seedorf-Kluivert.
Un premier test à domicile, occasion également pour le Cameroun de se refaire une santé, occasion pour le duo Seedorf-Kluivert de poser davantage ses marques sur cette équipe après le nul concédé lors de la précédente journée. Moi, je vous l'ai dit, je crois en ces joueurs. C'est vrai que Clarence Seedorf n'a pas encore fait suffisamment de preuves en tant qu'entraîneur après des passages éphémères dans certains clubs pour ses débuts. Mais là, il découvre en plus l'Afrique. Ce n'est pas facile pour commencer avec une nation comme le Cameroun qui est hyper passionné du foot. Il y a trop de pression autour de la sélection nationale à chaque fois. Il hérite d'une équipe, on a vu dès sa précédente sélection qu'il a plus besoin de composer avec des jeunes. Il aura donc du temps et l'occasion nouvelle pour la deuxième fois donc d'essayer de marquer un pas vers l'avant. Mais je pense que le Cameroun va y arriver. Le Cameroun sera prêt à organiser avec son équipe pour cette Coupe d'Afrique qu'il compte organiser à domicile. Donc Clarence Seedorf va davantage peaufiner son effectif, va davantage essayer de mettre en place sa vision pour cette sélection camerounaise. Champion d'Afrique en titre, c'est pas l'oublier, et qui n'a pas droit à l'erreur, qui ne doit pas se manquer justement lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Ça passe donc par une belle rencontre à domicile, une communion avec le peuple camerounais, et on espère que les Lions indomptables vont davantage marquer un pas vers l'avant route vers la CAN qu'ils vont nous organiser en juin prochain.
Dans le groupe C, on aura Mali, Burundi, Bamako, Gabon, Soudan du Sud à Libreville. Jules, c'est un baptême de feu pour le nouveau sélectionneur Daniel Cousin devant son public contre le Soudan du Sud. Est-ce que la sérénité est revenue au sein des Panthères après les bisbilles entre Pierre-Emerick Aubameyang et la Fédération Gabonaise de football?
Pas tout à fait vraiment, parce que on sait, Aubameyang est en foi relativement avec, le pays tout court depuis quelques mois, en tout cas depuis la Coupe des Nations qui s'est déroulée au Gabon. Bon, mais seulement là, le Gabon a une dernière carte à sortir lors de sa double confrontation contre le Sud-Soudan, qui est une équipe, ma foi, naissante, qui n'a pas encore fait ses preuves et qui est donc largement à la portée du Gabon. Mais la nomination de Cousin est venue dans le sens de galvaniser et la tanière des Panthères, et surtout de leur donner un leader qui les encourage à repenser à un passé un peu plus glorieux. Bon, donc on s'attend à ce que les Panthères, soutenus par leur public, ne serait-ce que dans un premier temps, s'imposent face au Sud-Soudan, car une double confrontation gagnée et leur permettrait de rentrer complètement dans le jeu et ne pas rater cette Coupe des Nations qui se déroule au Cameroun juste à côté et où vraiment les Gabonais espèrent aller prendre la revanche de la dernière.
Merci bien Jules. Vous suivez Sporama, suivez au Afrique. L'émission revient tout de suite. Dans le groupe D, on aura Algérie, Bénin, Blida et Togo-Gambie à Lomé. Amine, les Fennecs et les Écureuils sont à égalité. Ce sera une lutte pour la suprématie dans ce groupe-là.
lutte pour la suprématie, surtout premier match à domicile pour le nouveau sélectionneur sénégalais algérien Jamel Belmadi. Jamel Belmadi qui a eu son baptême de feu au Cap Vert avec un match nul et qui a besoin de se rassurer. Jamel Belmadi qui fait l'objet déjà d'une controverse puisque on s'attendait à ce qu'il convoque beaucoup plus de joueurs locaux, va devoir se reposer sur les effectifs qui ont été vus en Algérie sous la houlette de Lucas Alcaraz ou de Rabah Madjer. On se demande d'ailleurs du côté algérien, est-ce que finalement il y aura cette révolution ? Parce que depuis de nombreuses années, la controverse entre locaux et expatriés a lieu. Depuis la Coupe du Monde 2014 et depuis un sélectionneur qui était fédérateur, Vahid Halilhodžić, il y a eu Gourcuff, il y a eu d'autres noms qui n'ont jamais pu s'inscrire durablement dans la réalité algérienne. Donc cette équipe d'Algérie, qui avait fait match en Gambie, doit à tout prix séduire, gagner et se rapprocher davantage vers de la qualification. Donc, a priori, le match est à la portée des Fenech, mais encore faudrait-il que ces individualités, notamment Mahrez, qu'on a vu lors du dernier match entre Manchester City et Liverpool, assez étincelant, mais qui a tout de même raté son pénalty, puisse enfin prendre à son compte le jeu, et que d'autres joueurs comme Brahimi, qu'on avait vu un peu plus brillant il y a quelques années, puissent retrouver le niveau qui était le leur. A priori, l'Algérie joue à Blida devant son public, un public chaud bouillant. À Blida, c'est un peu le chaudron du football algérien. Et toutes les conditions sont réunies pour que les Fenech puissent enfin se réconcilier avec leur public après tant de ratés. On a vu un échec en Coupe d'Afrique en 2017. On a vu des éliminatoires de la Coupe du Monde complètement loupés. Et on a vu des débuts assez poussifs avec l'ex-sélectionneur Rabah Madjer.
Merci bien. Amine, alors Élysée, il faudra pour le Bénin bien négocier d'abord ce rendez-vous de Blida. Amine le disait tout à l'heure, stade fétiche des Algériens, et espérer ensuite un résultat 3 jours après à domicile, ce n'est pas simple.
Pas du tout. Ce sera difficile pour les Béninois. Yacouba, il faut le dire, puisque le Bénin n'a jamais réalisé un bon score, j'allais dire, pour ne pas dire, n'a jamais battu l'Algérie du côté du Blida. La dernière confrontation a laissé une défaite qu'on connaît tous, de Blida, même si Rudy Gested a inscrit un but sous coup franc. Par la suite, les Algériens ont emporté. Avant-dernière confrontation, ça a été 4-0 pour les Algériens. C'est-à-dire que c'est un stade qui ne porte pas souvent chance aux écuries. On sait que au moins il faudra faire un bon résultat là-bas sur cette double confrontation si le Bénin veut terminer deuxième de ce groupe-là, puisque ça va être très 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 difficile. Le Togo n'a pas encore dit son dernier mot. L'Algérie aussi, qui a une très bonne sélection, est sans doute la meilleure sélection dans ce groupe-là. Et ça démarre très mal déjà pour le Bénin, puisque Yacouba Mama Seibou est contraint de déclarer forfait pour cette expédition. Il faut dire que l'encadrement technique devra se passer de ses services. Le sociétaire de Toulon traîne une blessure qui le rend des stades. Et sur les 21 joueurs convoqués, il faut dire que quelques-uns ont déjà répondu, pour ne pas dire 15 ont déjà répondu présents du côté de Paris, puisque c'est là où va se passer le premier acte du stage en attendant de rallier Blida le mercredi prochain. Il y a bien sûr Stéphane Pessé, le capitaine de cette sélection. Tous les cadres sont présents d'ailleurs. Khaled Adenon, le défenseur de Amiens, il faut dire Jordan Nedé aussi, le capitaine de l'Asie, Austin, pour le citer, se réaliser vers donc de ce choix-là avec un certain Steve Mounet pour le présenter. L'attaquant de Huddersfield en Angleterre, première division anglaise, ils sont tous déjà présents pour cette expédition. Ils ont dit, ils ont confié à la presse cet après-midi, puisque la première séance d'entraînement a eu lieu aux alentours de 15h30, temps universel. C'est pas fait, on l'a dit. Ils sont confiants de la tâche qui les attend. Ils iront faire un très bon résultat à Blida. Il a confié au micro de la chaîne nationale. Donc, c'est dire que tous ces joueurs savent à quoi s'en tenir pour amener un bon résultat de Blida.
Merci bien, Élysée. Dans le groupe F, le Ghana devait recevoir la Sierra Leone à Kumasi. Mais vous l'avez suivi, la Sierra Leone a été suspendue par la FIFA. L'essence mondiale du football dénonce une ingérence des autorités du pays dans le fonctionnement de la fédération de football. La FIFA reproche notamment au ministre des Sports le limogeage de la présidente Isha Johansen et son secrétaire général Chris Camara, écarté pour des soupçons de corruption et de matchs truqués. Jules, une fois de plus, le sportif prend un sérieux coup du fait du comportement des politiques et cela est dommage.
Oui, du fait du comportement des politiques, mais aussi du fait de la réglementation qui n'a pas été, toujours pas été clarifiée dans le rôle que doivent jouer, disons que les États qui possèdent l'équipe nationale généralement où se trouve la fédération et la fédération internationale. Et la fédération internationale cherche à protéger les fédérations nationales de ces influences, mais il arrive également que certains potentats des fédérations locales essayent de jouer leur carte personnelle et se sentent un peu protégés de très haut. Donc il faudra peut-être que la sérénité revienne en Sierra Leone pour qu'on fasse la part des choses et que ce ne soit pas les sportifs qui souffrent.
Merci bien, Jules. Dans le groupe G, le Congo jouera le Libéria à Brazzaville et la RD Congo recevra le Zimbabwe à Kinshasa. Thierry, c'est un duel entre deux co-leaders du groupe. 4 points chacun, ça promet.
Un duel entre deux co-leaders, avantage au Zimbabwe, puisqu'il a marqué plus de buts que les Léopards de la République démocratique du Congo et a marqué plus et en encaissé moins. Les Léopards de la République démocratique du Congo qui démarrent officiellement les entraînements demain matin au stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. L'heure est au rappel des troupes. Une partie des joueurs, notamment sont évoluant à Kinshasa et à Lubumbashi au Tupiza Mazembe. Donc ces deux groupes sont arrivés déjà sur place à Kinshasa. Attendu ce soir et demain, le contingent des joueurs européens et même asiatiques, M. Edouard Bakambu et autres, Yannick Bolassier, Chantal Mbemba ou encore Gaël Kakuta, ils doivent arriver à partir de ce soir et demain pour se concentrer sur ce match contre un adversaire très difficile qui a remporté la Côte d'Ivoire à deux reprises et dont les sélectionneurs composent souvent avec des joueurs évoluant localement ou en tout cas dans la sous-région de l'Afrique australe. C'est une équipe qui se connaît très bien, c'est une équipe qui a complété le Congo-Brazzaville à domicile, c'est une équipe qui a emporté également en première journée face au Libéria. C'est une formation que Florent Ibenge prend très 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 au sérieux. Les Léopards vont devoir batailler dur car leur dernière rencontre au Stade des Martyrs n'a pas laissé de très très bons souvenirs. Il faudra absolument laver l'affront. Il faudra absolument confirmer sa suprématie dans ce groupe dès la troisième rencontre à Kinshasa avant d'aller à Harare jouer la manche retour face à la même formation du Zimbabwe. C'est donc une double confrontation que les Léopards prennent très au sérieux au niveau du staff et même des joueurs, même ceux qui se sont absentés lors des derniers regroupements ont promis d'être là, question de pousser les Léopards vers une qualification assurée pour la CAN Cameroun 2019. Et donc on verra ce que ça va donner, mais en tout cas c'est une double confrontation qui sera décisive pour la suite.
Merci bien Thierry. 7-4-1 2019 à attribuer au Cameroun, mais vous avez aussi suivi les fortes déclarations d'Ahmad lors du congrès de la CAF à Sharm el-Sheikh en Égypte, donc, en fin de semaine dernière. Le président de la CAF a douté sur le fait que le Cameroun soit prêt. Peu après, il s'est rendu au Cameroun et après une audience avec Paul Biya, Ahmad a déclaré que l'ennemi venait de l'intérieur et qu'il appartiendra au pays de Samuel Eto'o de dire s'il est prêt ou pas, ajoutant que la CAF n'a pas un plan B. Amine, finalement, ça fait trop de retournements de situation autour de cette CAN 2019 au Cameroun.
Ça fait trop de politique aussi, parce que on se rappelle que les déclarations d'Ahmed venaient après la décision de la CAF d'élargir la compétition à 24 équipes. On se souvient aussi que à chaque fois que la décision d'accorder au Cameroun ou d'octroyer au Cameroun un sauf-conduit ou un blanc-seing, le président Ahmed est toujours revenu sur l'état des installations, sur le fait qu'il y a une commission d'audit indépendante qui devait superviser l'avancée des travaux en matière d'infrastructure, et on attend, le compte-rendu de cette commission. On parle aussi d'une commission bipartite CAF-FIFA qui va devoir également se rendre au Cameroun, sachant qu'il y a un comité de normalisation. Donc il y a trop de zones d'ombre concernant ce dossier d'attribution de la CAN 2019, d'autant plus que sur le plan juridique, si les Camerounais voulaient contester au tribunal arbitral du sport le fait que la CAN soit... Ils avaient reçu une CAN à 16, ils se retrouvent avec une CAN à 24, ils auraient pu l'avoir au nom du président. principe de non-rétroactivité des lois nouvelles. Aujourd'hui, on se retrouve devant un processus politique au Cameroun qui est assez compliqué. On se retrouve en même temps avec des infrastructures et des travaux qui n'avancent pas au rythme souhaité par la CAF, à une compétition qui se déroule à 24, à des déclarations qui vont dans tous les sens, et à la pression des anciens joueurs camerounais, notamment Samuel Eto'o. Donc on va essayer d'être assez serein. Pour l'instant, la CAN, elle a lieu au Cameroun. Le gouvernement camerounais a accordé assez de garanties.
Merci bien, Amine.
Il y aura un audit et on verra dans quelle mesure cet audit va dire ou va déterminer est-ce que le Cameroun est capable d'organiser la CAN ou pas.
Merci bien, Amine. Ce sera en même temps votre mot de la fin. Je rappelle que je suis en direct avec Jules Valentin Ngoué à Libreville, Élisée Mpatine à Boïko au Bénin, Thierry Kamboundi de Top Congo FM à Kinshasa et Amdine Sy depuis Dakar. Sporama s'achève sur VOA Afrique. Merci à vous de l'avoir suivi. Michel, Joseph et Firmé Koyaweda l'ont réalisé. Vosniak a assuré la console. Merci, on se retrouve lundi prochain.